Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 13 Farvardin 1401 du calendrier iranien, 2 avril 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Washington affirme que les attaques contre les forces américaines ont augmenté de 400% après l'assassinat du martyr Soleimani. L'Iran salue l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour une trêve de 2 mois au Yémen. Téhéran et Moscou pourront recourir à leur monnaie nationale pour leurs échanges commerciaux. Et 3 jeunes Palestiniens ont été tués par les militaires du régime sioniste au sud de Jenin. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a salué l'initiative du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Yémen de suspendre les opérations militaires pendant 2 mois et d'autoriser l'entrée de navires transportant de la nourriture et du carburant, ainsi que la réouverture de l'aéroport de Sanaa. Selon l'IRNA, Saïd Khatibzadeh a exprimé samedi l'espoir que cette décision pourrait être un prélude à la levée complète du siège et à l'établissement d'une trêve permanente afin de trouver une solution politique à la crise au Yémen. Au seuil du mois sacré du Ramadan, en accordant la priorité aux questions humanitaires et en poursuivant la trêve, nous espérons voir l'amélioration de la situation humanitaire et l'échange complet de prisonniers entre les parties impliquées dans ce pays, a déclaré M. Khatibzadeh. Les Nations Unies ont annoncé le vendredi 1er avril qu'une trêve de 2 mois a été conclue au Yémen. L'Iran a la possibilité de commencer à commercer avec la Russie en utilisant le rouble russe et le rial iranien, a déclaré Mohsen Karimi, vice-gouverneur de la Banque centrale de l'Iran pour les affaires étrangères, vendredi. Selon l'IRNA, Mohsen Karimi a déclaré à l'agence russe Sputnik que les deux pays ont la possibilité de faire leur commerce en utilisant leur monnaie nationale, le rouble et le rial. Nous avons une riche expérience pour faire face aux sanctions illégales des Américains et nous avons déjà présenté nos propositions à la partie russe, a-t-il ajouté. Se référant aux tentatives des pays occidentaux pour donner suite à un projet d'iranophobie, Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré vendredi. Ces pays, qui ont une longue histoire de violations flagrantes des droits de l'homme, y compris des ventes d'armes au régime despotique, occupants et agresseurs, usent et abusent la question des droits de l'homme et l'instrumentalisent pour assurer leur velléité intéressée et politisée. Saïd Khatibzadeh a rejeté la résolution sur la situation des droits de l'homme en Iran et son approbation par le Conseil des droits de l'homme lors d'une réunion, le qualifiant de sans fondement et sur la base d'informations erronées et biaisées, faisant référence aux tentatives des pays occidentaux pour donner suite à leur projet d'iranophobie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Ces pays, qui ont une longue histoire de violations flagrantes des droits de l'homme, dont des ventes d'armes à des régimes autoritaires, occupants et agresseurs, instrumentalisent la question des droits de l'homme au profit de leurs intérêts et de leurs desiderata politiques. » Le Centre des droits de l'homme de la République islamique d'Iran a publié vendredi une déclaration en réponse à la décision du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies de proroger d'un an le mandat du reporter spécial de la situation des droits de l'homme par l'Iran. Les militaires israéliens ont assassiné samedi à l'Ob 3 jeunes Palestiniens en tirant sur une voiture au carrefour d'Araba, au sud de Jenin, en Cisjordanie. Le site Palestine Today rapporte que le directeur des ambulances et des urgences de Jenin, Mahmoud Al-Saadi, a dit dans des déclarations à la radio que le régime sioniste a assassiné 3 jeunes hommes dont l'identité n'était pas connue. Les corps n'ont pas été encore livrés aux autorités palestiniennes. Par ailleurs, des sources palestiniennes ont rapporté la mort en martyr d'au moins d'un citoyen palestinien et la blessure de dizaines d'autres lors d'affrontements opposant les forces sionistes et les Palestiniens dans diverses zones de la Cisjordanie. Diverses zones de la Cisjordanie ont été le théâtre, ce vendredi, des affrontements entre des militaires israéliens et des civils palestiniens, au cours desquels des dizaines de Palestiniens ont été blessés. Vendredi soir, les médias israéliens ont fait état d'une fuite de gaz toxique d'ammoniac d'une usine près de la ville de Dimona. La radio de l'armée israélienne a indiqué que les routes de la région ont été fermées à la circulation dans toutes les directions par crainte que le vent ne transporte de l'ammoniac. Pour le moment, aucun détail n'a été divulgué sur cet incident. Et enfin, à 230 jours du coup d'envoi du premier match, le tirage de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar était effectué ce vendredi à Doha. Un tirage relativement clément pour les Bleus, champions du monde en titre, qui vont en découdre avec le Danemark, la Tunisie et une équipe qui reste encore à déterminer parmi Pérou, Émirats arabes unis ou Australie dans la poule D. S'il n'y a pas véritablement de groupe de la mort, on retiendra un choc Allemagne-Espagne dans une poule E également composée du Japon et d'un barragiste entre Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. La République islamique d'Iran se trouve dans le groupe B avec l'Angleterre, les États-Unis et vainqueur du barrage européen entre le pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. La République islamique d'Iran n'a jamais affronté auparavant l'Angleterre et il a déjà vaincu les États-Unis 2-0 en 1998. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Washington affirme que les attaques contre les forces américaines ont augmenté de 400% après l'assassinat du martyr Qassem Soleimani et la campagne de pression maximale que les États-Unis ont lancée contre la République islamique d'Iran en 2018. S'exprimant lors d'un point de presse, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré qu'entre 2019 et 2020, le nombre d'attaques de ce qu'il a appelé des groupes soutenus par l'Iran en Irak avait augmenté de 400%. C'était au lendemain de la décision d'abandonner le plan global d'action conjoint sur le nucléaire civil iranien, a déclaré Ned Price. Mais c'était aussi au lendemain de la décision d'appliquer la désignation d'organisation terroriste au corps des gardiens de la révolution islamique, a-t-il ajouté. Washington a désigné le corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste étrangère en avril 2019, quelques mois seulement avant que l'armée américaine ne mène une attaque terroriste ordonnée par Trump à Bagdad en Irak pour assassiner le martyr, le général Qassem Soleimani, qui avait joué un rôle majeur dans la défaite du groupe terroriste Daesh en Irak en 2017. Suite à l'attaque, l'Iran et les groupes de résistance irakiens ont juré de se venger des agresseurs et d'expulser l'armée américaine de la région. Dans le cadre de cette vengeance, la République islamique d'Iran a lancé une volée de missiles balistiques sur deux bases américaines en Irak. L'Iran s'est également engagé à traquer les auteurs, y compris les opérateurs et les commandants, qui étaient derrière l'assassinat. Pour leur part, les groupes de résistance irakiens ont riposté aux forces d'occupation américaines, menant des attaques récurrentes contre des bases et des positions des militaires américains. Dans un rapport daté du 14 février, le département d'État américain a déclaré qu'il payait plus de 2 millions de dollars par mois pour assurer la sécurité 24 heures sur 24 de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, l'un des principaux auteurs de l'attentat contre le général Soleimani. Ned Price a également exposé les derniers développements concernant les efforts diplomatiques à Vienne pour ramener les États-Unis en pleine conformité avec le plan global d'action conjoint et abroger leur politique de pression maximale sous l'administration Joe Biden. Comme toujours, il a noté des progrès ces dernières semaines, affirmant qu'il y avait un petit nombre de questions en suspens, mais a rejeté la responsabilité sur l'Iran pour l'échec à parvenir à un accord pour rétablir l'accord nucléaire de 2015. La République islamique d'Iran affirme que l'indécision de Washington est à blâmer pour la prolongation des pourparlers, car un certain nombre de questions clés restent non résolues. allant de la suppression de toutes les sanctions imposées après l'accord de 2015 aux garanties par la partie américaine qu'elle ne quittera plus l'accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'un des principaux problèmes auxquels était confronté l'accord était le retrait du corps des gardiens de la révolution islamique de la liste noire des Américains.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet du débat où nous allons donc discuter de ce fameux sommet donc du Negev où des groupes donc pro-palestiniens ont dénoncé d'ailleurs les prises de position du ministre marocain des Affaires étrangères lors de ce sommet en donc qualifiant qu'il se portait de porte-parole donc de Tel Aviv. Et tout de suite après ce sommet, donc il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a effectué donc une visite de 2 jours au Maroc avant de se rendre aujourd'hui même à Alger. Sans plus attendre, nous allons donc, juste avant de retrouver nos 2 invités, regarder ce petit reportage et je vous retrouve tout de suite après.
La Jordanie, la Boudée, l'Égypte en ont accepté l'invitation, mais à contre-cœur. Et plus l'Amérique, son initiateur de l'ombre, l'a totalement tué dans l'œuf. Al-Mayadeen a rapporté, citant des médias sionistes, que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a bel et bien mentionné au cours des débats le nom de l'Iran comme une puissance clé que les pays de la région ne pourraient sous-estimer ni faire la guerre contre. Selon le rapport, les médias israéliens ont rapporté que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déclaré aux ministres arabes des Affaires étrangères participant au sommet du Negev, plus à leur homologue sioniste, que l'Iran était un élément clé dans la région avec ou sans accord de Vienne, ce qui veut dire à peu près la chose suivante. Les USA sont vaincus par l'Iran maintenant, que l'on veuille ou pas, il faut faire avec. Or, cet aveu vient d'un Blinken qu'on a tarissé il y a quelques semaines sur le compte de ce même sommet en disant qu'il était même impossible d'en imaginer la tenue il y a quelques années et que les États-Unis et leurs partenaires travaillent ensemble pour contenir les comportements agressifs de l'Iran et de ses alliés. Le dossier iranien a été d'ailleurs omniprésent au sommet et on disait même que le secrétaire d'État des États-Unis y était pour préparer les esprits des pays opposants à l'accord avec l'Iran, notamment Israël, à un éventuel accord bis. Évidemment, personne ne sait si ou quand l'accord sera renouvelé, mais la quasi-totalité des médias mainstream annonce avec une certaine frénésie qu'il y a des indications qu'il pourrait l'être bientôt, malgré plusieurs accrocs de dernière minute, dont l'un implique la demande de l'Iran de déblacklister le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, de la liste noire de Washington.
Voilà, de retour donc dans ce plateau. Je vais vous présenter tout de suite nos 2 invités. Alors, Maître André Chamy, juriste international depuis l'Alsace. Maître Chamy, est-ce que vous m'entendez ?
Parfaitement.
Bonjour à vous et bienvenue donc sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer donc directement.
Merci pour votre invitation et bonjour à Monsieur Michel. Qui est un interlocuteur assez assidu et dont j'apprécie les interventions.
Évidemment, Luc Michel, on ne le présente même plus, c'est notre géopoliticien. Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Un bonjour à votre équipe et à Maître Chamy, que j'ai aussi grand plaisir à retrouver.
Alors, Maître Chamy, je vais commencer par vous. Donc, merci de nous avoir accordé du temps. Quel est le sens de ce sommet du Néguev, pour que nos téléspectateurs le sachent, en fait?
Alors, pour faire un peu de plaisanterie, ça s'appelle presque une psychothérapie. Parce qu'en réalité, toutes les parties qui étaient présentes essayaient de se rassurer comme elles le pouvaient à travers cette rencontre qui ressemble plus à un cocktail qu'à une préparation de quelque démarche que ce soit. Parce qu'en dehors, pour dire les choses plus clairement, en dehors d'Israéliens et les Américains qui sont partenaires, pour ne pas dire associés, dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 70 ans, les autres ne servaient qu'à faire de la figuration, parce que qu'est-ce que feraient les Émirats arabes unis, qu'est-ce que ferait le Bahreïn, même l'Égypte d'ailleurs, qu'est-ce que ferait l'Égypte dans une éventuelle stratégie globale? Il n'y a rien, parce que pour contribuer à une démarche stratégique, il faut que vous ayez de la puissance. Les Émirats arabes unis ont besoin d'une protection, le Bahreïn a déjà des problèmes intérieurs à régler, il n'a même pas la capacité de se projeter dans quoi que ce soit, si ce n'est de chercher des gens qui le protègent à gauche, à droite. Il cherche l'Arabie Saoudite, il cherche les Émirats, il cherche les Turcs, et il cherche également les Américains et les Occidentaux, mais en réalité, il n'y arrivera jamais parce qu'il est posté, si je veux dire, à cet endroit-là, contre la volonté de son peuple, et ça finira par chuter. Il reste qui ? Il reste l'Égyptien, et l'Égyptien s'est dépêché de dire « moi, je suis là, mais en réalité, en tant que spectateur, parce que je ne participerai à aucune alliance qui pourrait constituer un front contre l'Iran ou contre toute autre partie. » C'est la raison pour laquelle j'ai eu, le sens de l'humour en disant « ça ressemble plus à une psychothérapie », puisqu'ils essayaient de se rassurer. Et notamment pour rassurer les Israéliens, mais en réalité, pour rassurer les Israéliens, il aurait fallu que les Palestiniens soient présents, même si l'autorité palestinienne, à mon sens, a perdu toute légitimité et se trouve aujourd'hui dépassée par les autres franges de la résistance et qui ont fait leurs preuves sur le terrain, que ce soit le djihad et bien d'autres, le djihad islamique, etc. Ils ont déjà dépassé de loin l'autorité palestinienne. Et même l'autorité palestinienne qui a plus ou moins été connivente par rapport au projet américain, surtout pour des solutions dites pacifiques. Et bien aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'était pas présente, et pour cause, parce qu'elle voit aujourd'hui qu'elle est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a sa population qui lui dit maintenant, ça commence à bien faire, vous continuez de faire des concessions, mais les concessions en 70 ans n'ont rien donné. Et en même temps, vous avez l'autre frange, c'est-à-dire la résistance active et armée qui a fait ses preuves et qui maintenant crée une sorte de dissuasion, pour ne pas dire à instaurer la peur réciproque, pour ne pas dire la terreur réciproque des deux côtés, c'est-à-dire si vous bombardez les Palestiniens, ben les Palestiniens riposteraient, et avec cet équilibre de force, même si l'équation est asymétrique, mais il n'en reste pas moins que pour l'intérieur israélien, il y a une crainte que ça déstabilise l'ensemble de la situation au Moyen-Orient, et plus particulièrement au sein de l'entité sioniste, parce que le sentiment de peur déstabilise la démographie, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je pense qu'on y reviendra, mais les opérations palestiniennes au sein de l'entité sioniste conduira indiscutablement à le départ de cette entité et avec ce qu'on appelle un mouvement de retour vers les pays d'origine, notamment vers l'Occident. Et évidemment, à ce moment-là, cette entité se trouvera confrontée à un problème existentiel dont je parle depuis des années, parce qu'il y a une déstructuration qui se fait à l'intérieur, et l'implosion, à mon avis, de ce système deviendra inévitable.
Très bien, merci beaucoup, Maître Chami. Luc Michel, vous êtes avec nous.
Oui, je vous écoute.
Alors, la visite d'Anthony Blinken au Maroc et même à Alger aujourd'hui. Quel est le sens de cette visite, surtout dans le contexte actuel de tout ce qui se passe, en fait, j'allais dire en Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement au Mali ?
Du plan de Poutine, dont le véritable but de guerre en Ukraine, c'était de dynamiter l'ordre mondial. L'ordre mondial n'a plus d'existence et le bloc américano-sioniste, quoique des positions qu'il croyait acquises, n'existent plus. En particulier, la majorité des États du Proche-Orient, qui étaient les alliés des Américains, sont restés neutres dans la guerre avec la Russie. En particulier au sommet de Doha de l'OPEP du gaz, les Émiratis et les Qataris ont pris position en faveur du bloc de l'Est, c'est-à-dire de l'Iran et de la Russie. Plus grave pour les Américains, en Afrique même où il y a une véritable déflagration, où 34 États africains ont pris position pour la Russie, où sont restés neutres, les Marocains qui étaient la porte d'entrée des Américains en Afrique, sont également pour des raisons économiques restées neutres. Les Américains payent leur politique. Ils ont disjoint les alliances géopolitiques des alliances économiques, c'est-à-dire que les alliances géopolitiques et les guerres économiques étaient disjointes. Aujourd'hui, c'est une politique qui se retourne contre eux. Voilà ce qu'on constate. Et donc, je pense qu'il y a, à l'intérieur du Maroc notamment, des éléments qui essayent malgré tout de radicaliser la situation. Ça explique certaines positions marocaines dans ce sommet et qui ne sont pas suivies par les autres. Il y a même des positions américaines qui ne sont plus cohérentes. La visite de Wendy Sherman au Maroc, par exemple, a pris des positions qui sont par Anthony Blinken. C'est un effondrement partout des positions américaines. Et même les Israéliens sont restés neutres dans la confrontation entre la Russie et les États-Unis et veulent adopter une position de soi-disant arbitre au lieu de prendre position pour le rallié américain. Tout cela est inquiétant pour les États-Unis. Il explique les positions modérées dans son Blinken.
Très bien, merci beaucoup Luc Michel. Je pense qu'il y a des petites coupures, mais bon, la régie va arranger cela. Maître Chami, est-ce qu'on peut réellement parler d'une alliance, en fait, qui se met en place contre l'Iran ?
Cette velléité de constituer une alliance a toujours existé. Pourquoi ? Pour, en quelque sorte, rassurer l'entité sioniste. Parce que l'entité sioniste sait aujourd'hui qu'elle est encerclée. Elle sait que les ennemis, maintenant, ses ennemis, sont autour de la première couronne. C'est-à-dire, si vous prenez la première couronne, que ce soit la Palestine, c'est-à-dire la résistance palestinienne, vous prenez la Syrie, vous prenez le Liban, et derrière eux, il y a d'autres pays et d'autres populations qui sont prêts à s'engager, bien entendu, dans une éventuelle guerre, pour ne pas dire un conflit généralisé. Évidemment, ça crée un véritable sentiment de peur au sein de l'entité sioniste, raison pour laquelle elle cherche à avoir des alliés. Mais qui sont ces alliés ? Les Émirats Arabes Unis ? Ça ne constitue pas un allié parce que jusqu'à maintenant, même avec toute une alliance, je dirais extraordinaire, avec les Saoudiens et bien d'autres, ils n'arrivent même pas à vaincre le misérable peuple yéménite. Alors vous imaginez s'ils devaient tous se rallier contre l'Iran avec toute sa puissance. Vous prenez le Bahreïn, il n'arrive même pas encore à mater sa propre population parce qu'il y a une révolte qui continue et bien entendu qu'ils essayent d'écraser, mais ça ne marche pas parce que, encore une fois, cette population veut un autre espace de liberté que le royaume actuel ne lui assure pas. L'Égypte est confrontée également à des problèmes intérieurs et des problèmes économiques particulièrement graves parce qu'on est à l'approche d'une sorte de famine qui risque d'envahir l'Égypte. C'est-à-dire, quelle solution l'Égypte est capable de présenter à l'entité sioniste, surtout que jusqu'à maintenant, l'Égypte a donné tout ce qu'il pouvait pour aider les Israéliens, y compris participer au blocus de Gaza. Et malgré cela, ça n'a pas empêché le passage des armes, la reconstruction, si j'ose dire, de la force armée de la résistance palestinienne et la rendre encore plus puissante et plus capable maintenant de menacer l'extrême intérieur de l'entité sioniste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul point qui ne soit pas à la portée des missiles palestiniens. Que peut faire aujourd'hui l'Égypte ? Rien. Et c'est la raison pour laquelle Blinken fait ce qu'il peut pour lui dire bah, « Regardez voir, maintenant vous avez des alliés dans le coin, mais ces alliés, encore une fois, ce sont eux qui ont besoin de protection. » Et toutes les velléités de préparer un front. Évidemment, il y a toujours une guerre de renseignement, il y a toujours une possibilité de proposer des pieds-à-terre pour les Israéliens dans des zones plus proches de la frontière avec l'Iran. Mais moi, j'ai toujours dit que l'œil vigilant de la République islamique d'Iran et plus particulièrement des gardiens de la Révolution, à mon sens, empêcherait toute possibilité d'une quelconque attaque. Est-ce qu'on est à l'abri de toute folie israélienne ? Non. Mais les Israéliens savent que la moindre démarche à l'encontre du territoire ou des bâtiments ou des intérêts iraniens, il y aura une réponse foudroyante et qui mettrait en cause l'existence de cette entité. Et maintenant, c'est ça aujourd'hui ce que j'appellerais le rapport de force, pour ne pas dire l'équation imposée par l'Iran et par ses alliés. Et aujourd'hui, l'évolution de la situation sur le plan géostratégique qui a été rappelée par Luc Michel, évidemment, ne peut que contribuer à l'amélioration des positions iraniennes dans la région, même si l'Iran, dans ses déclarations, dit qu'il est pour la paix et qu'il est pour la paix, mais il n'en reste pas moins que ses alliances avec la Russie et avec la Chine l'inciteraient toujours à être plus proche de la politique russe, et bien entendu les Russes seront plus à même avec les Chinois d'assurer une protection du dos, si j'ose dire, de l'Iran, et ne permettrait pas une quelconque intrusion. Et nous sommes aujourd'hui évidemment dans l'ambiance d'une guerre généralisée qui, à mon avis, n'aura pas lieu, mais cette ambiance-là ne peut que contribuer à créer plus de peur chez les Israéliens qu'auparavant, parce que en cas de conflit généralisé, bien entendu, ils seront entre guillemets les premières victimes de la politique impérialiste américaine avec celle des Occidentaux, qui ne varie pas par rapport à la politique américaine, alors qu'ils auraient dû prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe, mais malheureusement, cela n'arrive pas actuellement.
Très bien, merci beaucoup André Chami. Luc Michel, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait mettre la visite d'Anthony Blinken, donc justement en Algérie et même au Maroc, en fait dans, on va dire, la planification des États-Unis de reprendre les commandes de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement du Sahel?
Écoutez, les Américains assistent sidérés à l'évolution de la guerre économique qui est leur véritable pendant en Ukraine. Ce n'est pas important, ce n'est pas les opérations militaires de la Russie contre l'Ukraine. La véritable confrontation entre les Américains et la Russie, c'est la guerre économique qui a pour but américain de fracturer l'économie russe, mais de fracturer aussi les économies européennes. Les Israéliens et les Américains assistent effarés à leur isolement malgré ce que la propagande de guerre de l'OTAN nous fait croire. Le refus du Proche-Orient de s'engager contre la Russie, le refus du Maroc, le refus de 34 États africains montrent l'isolement complet. Israël même a peur de s'engager contre la Russie. Ça explique sa position. Imprudemment, les Américains, en voulant s'emparer du marché du gaz et fracturer les importations russes en Afrique, ont cru qu'ils pouvaient compter sur l'Algérie, sur l'Iran et même sur le Venezuela pour remplacer la Russie. Et ils oublient leur politique d'hostilité et leur politique de sanctions contre l'Iran et le Venezuela, qui est une politique criminelle depuis des années. Fort justement, les Iraniens et les Vénézuéliens, mais aussi les Algériens, ont refusé de s'engager dans le soutien à l'économie occidentale face à la Russie. À partir de ce moment-là, les Américains se retrouvent isolés. Les solutions alternatives qu'ils proposent n'existent pas. Par exemple, les Russes fournissent à l'Europe 150 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Les Américains ont proposé de fournir une alternative de 15 milliards de mètres cubes. Les Algériens, les Iraniens et les Vénézuéliens ne vont rien finir. Dès lors, les Américains, comme on dit, le roi est nu et se retrouve nu face à la Russie. C'est cela qu'il faut constater. C'est l'effroi des Américains, mais surtout des alliés européens dans l'OTAN des Américains qui se retrouvent seuls face à la Russie. L'effroi de tous ces gens est de constater que leur plan machiavélique n'a pas fonctionné.
Merci beaucoup, Luc Michel. André Chamy, une dernière petite question. Vous avez parlé tout à l'heure des populations, mais ici, le groupe donc pro-palestinien est un groupe marocain en fait qui a dénoncé qui a plutôt qualifié en fait le ministre des Affaires étrangères marocain de porte-parole de Tel Aviv. Est-ce que le gouvernement marocain ne risque pas de se mettre à dos en fait la population marocaine?
C'est une possibilité, mais en réalité, ce ministre des Affaires étrangères était connu par ses déclarations. C'est-à-dire, ce n'est pas une nouveauté.
Est-ce pas dangereux, alors, pour le gouvernement marocain? Pardonnez-moi.
Ça peut, évidemment, créer à un moment donné. Si le mouvement devait s'amplifier, ça peut créer une déstabilisation importante. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement pour la population marocaine, le roi tient par les services secrets et les services de renseignement de toutes sortes depuis des années, même depuis l'époque de son père, toute possibilité d'opposition. D'ailleurs, ils sont connus par leur violence et par leur capacité de réprimer toutes sortes d'oppositions, y compris par les moyens les plus brutaux. Est-ce qu'un jour ça risque de leur échapper? C'est pas impossible parce qu'il y a, pas uniquement sur cette question-là, mais sur d'autres questions sociétales, économiques, politiques, démographiques, c'est-à-dire il y a des choses qui pourraient se passer. Mais aujourd'hui, objectivement, ce n'est pas prévisible, mais ça peut être des éléments déclencheurs par rapport à ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir une sorte de synergie autour des opposants sur ce point-là, et ça deviendrait quelque chose de plus important. Ça ferait probablement un effet boule de neige.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement le but recherché, cette fameuse déstabilisation au Maroc? Ce but recherché par les Occidentaux, et particulièrement par les Américains en l'occurrence.
Objectivement, aujourd'hui, ils n'y ont pas intérêt parce qu'ils ont, à l'époque de ce qu'on a appelé les printemps arabes, ils ont sélectionné les pays qu'ils voulaient déstabiliser en raison de, je dirais, justement des possibilités de changement qui pourraient leur échapper. La Libye était dans cette voie-là, la Tunisie était dans cette voie-là. Et la Syrie, c'était plutôt, si j'ose dire, la dernière pierre de domino, parce que les États-Unis ne pouvaient pas s'en prendre à la Syrie seule, parce que ça aurait été trop flagrant pour dire qu'il y a une déstabilisation. Là, on l'a fait passer comme si c'était une vague de démocratie qui traversait le Moyen-Orient. Et on est passé de la Libye, la Tunisie et l'Égypte. On sait comment ça s'est terminé, c'est-à-dire on est revenu à la case départ. Moubarak, il est blanchi avec toute sa clique. Et aujourd'hui, celui qui l'a remplacé, en réalité, c'est son fils spirituel. Il n'y a que la Libye qui a payé un prix très fort. La Tunisie retrouve un semblant de stabilité. Nous verrons si la démocratie l'emporte avec l'actuel président qui est occupé par une certaine résistance de la classe politique très classique dans ce pays-là. Et la Syrie est en train de sortir de cette guerre qui a été menée contre elle, même s'il reste encore des zones à libérer et surtout une économie à rattraper avec le vol de son pétrole par les Américains directement, ce qui constitue en soi un crime de guerre que les Américains n'assument pas et personne n'ose les attaquer, y compris en Occident et surtout en Occident, alors qu'on nous parle toujours de crime de guerre, mais là c'est un crime de guerre flagrant, reconnu et particulièrement documenté. Je ne parle même pas des autres crimes de guerre, mais particulièrement celui-ci, et personne n'ose ouvrir, si j'ose dire, la bouche pour reprocher aux Américains ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est un vol aggravé, si j'ose dire, et par une occupation illégitime d'un pays qui ne leur a rien demandé et qui, bien entendu, qui cherche tout simplement à retrouver la paix et la sérénité dans son pays avec sa population.
Très bien, merci beaucoup Maître André Chamy. Donc je le rappelle, vous êtes juriste international et vous nous contactez depuis l'Alsace. Luc Michel, notre géopoliticien depuis Bruxelles, merci à vous d'avoir participé également à ce débat. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous retrouve à une prochaine fois.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré mercredi le président syrien Bachar al-Assad pour discuter avec lui de la coopération bilatérale et des développements régionaux et internationaux. Lors de cette rencontre, Hossein Amir Abdollahian, tout en félicitant les succès réalisés par la Syrie dans les arènes politiques et sur le terrain de la lutte contre ses ennemis, a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement et au peuple syrien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un nouveau chapitre des relations s'ouvre dans le domaine de la coopération économique et commercial entre les deux pays. Le développement de la coopération économique entre l'Iran et la Syrie est sérieusement à l'ordre du jour des relations bilatérales et la facilitation du transport et du transit entre les deux pays est envisagée. À cet égard, les interactions et les échanges entre les deux pays sont également importants. Se félicitant du processus de normalisation des relations entre les pays de la région et la Syrie, Amir Abdollahian a noté les points de vue communs des deux parties sur de nombreuses questions régionales et internationales et a souligné que dans les tensions régionales, la République islamique d'Iran s'oppose à toute guerre et appelle à une solution politique et pacifique. Pour Téhéran, retourner le chapitre des différends passe par le dialogue et des moyens politiques pacifiques. Le président syrien a qualifié les allégations de bonne volonté avancées par des responsables du gouvernement américain de sans fondement avant de qualifier la position de la République islamique d'Iran dans les pourparlers de Vienne de sage et de correct. Soulignant que ce qui est important pour la Syrie, ce sont les approches de l'Iran, il a réitéré le soutien de la Syrie à l'Iran dans les pourparlers de Vienne. Bachar al-Assad s'attardant sur la visite d'un groupe d'érudits et sunnites iraniens en Syrie a déclaré que ce déplacement avait une signification importante. Il a demandé à Amir Abdollahian de transmettre les salutations du président du gouvernement et du peuple syrien au guide suprême de la révolution et islamique et au président Raisi. Les développements en Palestine et certaines autres questions bilatérales, régionales et internationales ont été également discutées lors de cette rencontre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, après sa visite en Syrie, s'est rendu au Liban où il s'est entretenu avec les autorités de ce pays, dont le Premier ministre, le président du Parlement et son homologue libanais, des questions d'intérêt commun ainsi que des questions régionales et internationales. Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a averti les ennemis de l'Iran contre la poursuite de leur hostilité contre le pays. Cessez le mal, sans quoi les rares ouvertures qui vous restent dans le monde seront bientôt fermées, a déclaré le général de division Hossein Salami, commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Sachez que pour pour honorer nos martyrs, nous ne nous contentons pas de simples funérailles et que nous passons également à l'acte pour les venger, et ce alors que nous sommes entrés dans un nouveau siècle qui est celui de la décadence et de puissance diabolique de nos ennemis, a ajouté le général Hossein Salami. Dans une autre partie de son discours, le général Salami a précisé que pour la nation iranienne, la résistance aux pressions et aux menaces obéit à une logique qui ne se limite pas à une courte période de confrontation avec les ennemis. La nation iranienne a fait preuve de son esprit de résistance pendant les 8 années de la défense sacrée, pendant les longues années de sanctions et de pressions économiques face aux agressions des terroristes et à la campagne médiatique et culturelle de ses ennemis, a ajouté le commandant en chef du CGRI. Le général Salami a évoqué ensuite les récentes déclarations des responsables de la Maison-Blanche selon lesquelles le régime des sanctions imposées par Washington à la République islamique d'Iran aurait renforcé davantage les Iraniens et a ajouté le processus du déclin de la superpuissance américaine et de la civilisation occidentale a commencé il y a des années et s'est accéléré ces derniers temps. Le commandant en chef du CGRI a affirmé que la logique de la révolution islamique est supérieure à celle de la civilisation occidentale et qu'elle est basée sur la supériorité de l'islam, la liberté des esprits et la fin de l'ignorance. Un membre du conseil politique du mouvement de la résistance des Yéménites, Ansar Allah Mohammad al-Bukhaiti, a déclaré que lorsque les régimes saoudiens et émiratis sont en danger, il devient dans l'intérêt des Américains et des Britanniques de mettre fin à la guerre contre le Yémen. Monsieur al-Bukhaiti a fait savoir que c'est la première fois que nos opérations sont décrites comme une opération de rupture du siège. Il a expliqué que le Yémen dépend du diesel dans l'agriculture, ne tant que la coalition d'agression saoudienne sait qu'interdire l'entrée des dérivés pétroliers implique une interdiction de la vie au Yémen. Le dirigeant d'Ansar Allah a déclaré que son pays n'avait d'autre choix que d'intensifier et de frapper les installations pétrolières dans les profondeurs saoudiennes, soulignant que ces opérations se poursuivront de manière ascendante. Nous sommes sérieux quant à l'augmentation des opérations contre leurs installations pétrolières. Le Yémen possède un important stock de missiles balistiques et ailés ainsi que des drones, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, al-Bukhaiti a expliqué que nos opérations dans les profondeurs saoudiennes se poursuivront et s'intensifieront et ne sont pas liées à ce qui se passe en Ukraine et en Europe, soulignant que cela aura un impact important sur l'Arabie saoudite et Israël. Et d'assurer l'augmentation de nos frappes doublera la crise pétrolière mondiale. Le chef d'Ansar Allah a également souligné que la position internationale envers l'opération russe en Ukraine a dévoilé l'image criminelle de la communauté internationale, ne tant que la guerre contre le Yémen est incomparable à ce qui se passe en Ukraine et a dévoilé l'hypocrisie de tout le monde. Il a en outre estimé qu'il est erroné de réduire nos frappes en raison des circonstances que traverse le monde où le Yémen est devenu un acteur clé. Il a dans ce contexte prévu que l'Arabie saoudite se plie aux demandes américaines d'augmenter la production de pétrole, soulignant que la décision d'augmenter la production du pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis n'est plus entre les mains des États-Unis, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, uniquement, mais aussi entre les mains du Yémen. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne, donnant une semaine aux autorités russes pour mettre en place le nouveau système en roubles. J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises, a annoncé le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion gouvernementale, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident. Les États-Unis et l'Union européenne se sont déclarés en cessation de paiement sur leurs engagements vis-à-vis de la Russie. Et désormais, chacun dans le monde sait que les engagements ont dollars ou en euros peuvent ne pas être remplis. Livrer nos produits à l'Union européenne et aux États-Unis et recevoir des paiements en dollars, en euros et dans certaines autres devises n'a plus de sens pour nous, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.